J'invite à continuer notre étude biblique sur ce qui se nomme les dispensations, c'est-à-dire les grandes périodes de l'histoire où le monde était géré par des périodes d'administration, c'est comme ça qu'on dit, de l'homme. Alors, un rapide rappel des deux premières périodes de l'histoire. La première période s'appelle l'innocence, la période de l'innocence. Et là, cette période nous révèle que même dans un contexte ultra favorable, l'homme n'obéit pas forcément à Dieu. Ça, c'est la première grande leçon. Même dans un contexte ultra favorable, Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, et pourtant, c'est pas ce qui les a contraints, obligés à obéir. Ils ont fait le choix de la désobéissance. Après, on a la deuxième période, la période dite appelée de la conscience, qui nous révèle que l'homme est capable maintenant de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et bien, face au bien et au mal, l'homme choisit le chemin du mal. Et ce choix conscient, le rend encore plus responsable de sa culpabilité. Ce n'est pas seulement une question de désobéissance ou alors peut-être saisi par la naïveté ou l'ignorance, mais là, avec la conscience dont nous sommes tous dotés, je le rappelle au passage, chaque fois que l'on fait le choix du mal, cela nous rend encore plus responsables. Parce que quand on fait un mauvais choix, on le fait avec la conscience, la compréhension et la connaissance de ses conséquences. Une petite remarque qui est sur la chronologie de toute l'humanité. Mais remarquons que dès l'origine, la foi est l'élément du salut. La foi, parce que dans le jardin d'Éden, il fallait la foi pour croire que ce que Dieu a dit s'accomplirait. C'est le principe de la foi. Dieu a dit tu ne mangeras pas, par la foi j'obéis, je crois que ce que tu as dit c'est vrai. C'est la foi qui est aussi déterminante dans la notion de la conscience. Et effectivement, la conscience seule, les hommes n'avaient pas de loi, pas de repère, mais par la foi ils devaient réaliser que la notion du bien venait de Dieu et qu'en choisissant le bien par leur conscience, ils choisissaient la voie de Dieu. Donc la notion de la foi n'est pas du tout remise en cause dans les différentes phases de la dispensation, mais la foi, au sens pur du terme, celle de faire confiance, celle de croire Dieu au mot, celle de chercher non pas notre intérêt, mais l'intérêt de Dieu, est le fil conducteur de la relation entre Dieu et les hommes. Et Dieu ne changera jamais rien à ce principe fondamental. Voyons maintenant donc, ce soir, ce que certains appellent la dispensation, alors j'ai pas pu tout mettre, mais j'espère que vous comprenez, donc la dispensation du gouvernement humain. Alors, cette dispensation, on la situe entre le chapitre 8 et le chapitre 11, c'est-à-dire après le déluge, et puis ça s'arrête au moment où les hommes sont dispersés à Babel. D'accord ? On va voir étape par étape. Donc ça, c'est, on l'estime à peu près 427 ans si on s'établit sur les chiffres bibliques sur les chiffres bibliques. Donc rappelez-vous, sous la dispensation de la conscience, aucune loi n'avait été donnée. L'homme, la femme n'avaient que la conscience du bien et du mal, la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal. La conscience corrompue par le péché. L'histoire, rappelez-vous l'image de la règle qui est déformée, avec laquelle on essaye de faire des traits droits, mais en fait, si la règle elle est déformée, bah, tous les traits que vous ferez seront forcément droits. Donc déjà, c'est caduque, mais en plus, il y a le choix de l'homme à choisir le mal. Résultat a été catastrophique. Et Dieu a dû arrêter ce processus et apporter un jugement terrible, celui qui s'exprime au travers du déluge. Et puis, il y a le déluge. Et puis voilà qu'on arrive à Genèse chapitre 9, avec Noé, qui commence une nouvelle dynastie. Et je vous invite à lire avec moi les 7 premiers versets de chapitre 9. Parce qu'on va voir là le début de ce que l'on peut considérer comme un gouvernement humain. Genèse, chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ceci n'est qu'un rappel de ce qui avait été dit en Éden. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal sur la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Rappelez-vous, ça aussi, c'était déjà acquis en Éden, la domination sur toute la création. Ce qui change un petit peu, c'est qu'en Éden, il n'avait le droit que de se nourrir des fruits, des arbres et de la terre. Et là, Dieu leur permet également la nourriture animale. Seulement, le texte est un peu plus compliqué, mais on va en tirer après la substance tout à l'heure. Verset 4, seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je le redemanderai à l'homme. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est ton frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, on le comprend, le sang c'est tuer. Si quelqu'un tue l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alors, en résumé, quel est ce premier commandement, quelle est cette première loi morale que Dieu donne? C'est en gros, ne mangez pas le sang. Si on résume, ne mangez pas le sang. On va voir pourquoi il parle de l'âme tout à l'heure. Et ne tuez pas. Et là, on pourrait dire que Dieu donne une loi embryonnaire, une première loi. Pourquoi embryonnaire? Parce que c'est juste le commencement de quelque chose. Après, cette pensée va se développer. Mais si on résume la pensée, le premier code, la première loi que Dieu donne à l'espèce humaine, en plus de sa conscience, et dit, vous ne mangerez pas de sang et vous ne tuerez point. Alors cette loi qui paraît très simple, très primaire, très basique, elle nous apporte quand même, en y méditant, une réflexion à trois niveaux. La première réflexion, elle est d'un point de vue moral. Quelque part, si l'homme a ce commandement de ne pas tuer son prochain, c'est-à-dire qu'il doit réfléchir à la manière de gérer les conflits. On se connaît tous, hein. On est des meurtriers par puissance, non? Qui n'a pas dit, punaise, j'ai envie de l'étrangler celui-là? Qui n'a pas dit, mais si je pouvais? Qu'est-ce qui nous a retenu? Pas notre conscience, hein. La loi, la prison. Il y a bien des situations où la loi nous a empêchés de passer à des actes violents et... Alors, vous n'êtes pas tous, vous êtes des meurtriers en puissance, mais comprenez que le sentiment est quand même là, hein. On est tous sortis du même bois d'arbre bien vérolé. Et donc là, Dieu donne un premier rapport, il dit, tu ne tueras pas. Voilà la première loi, tu ne tueras pas. Donc, ça paraît très naïf comme ça par rapport à nous qui sommes habitués à des lois, mais ça veut dire quand même que Dieu interpelle l'homme à sa relation avec son prochain. C'est une première notion très morale, mais n'empêche qu'elle établit là le premier fondement de la relation à l'autre. Cette relation, elle sera parfaitement accomplie parce que Dieu dira autrement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça sortira de la bouche de Dieu. Plus tard, dans les lois, et Jésus le rappellera. Ça, c'est l'accomplissement de tout, l'amour. Ce n'est plus une sorte de privation, tu ne tues pas. Ça deviendra une loi par excellence, celle de l'amour, celle de communiquer. Mais nous en sommes, je le rappelle, à cette loi embryonnaire qui commence par « ne tue pas » et du respect pour l'autre que tu as en face de toi. Le deuxième rapport, il est sur un plan spirituel. Drôle d'expression quand même que de dire « tu ne mangeras point de chair avec son âme, virgule, avec son sang. » Est-ce que notre âme, qui est la partie invisible de l'homme, est-ce qu'il serait contenu dans le sang? Le texte, c'est ce qu'il veut dire. Alors nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Et on va chercher de comprendre ce que Dieu veut dire. On se rappelle qu'on est vraiment dans la construction de la révélation de Dieu. La révélation de Dieu dans l'humanité, elle est progressive. Dieu se sert du sang comme un symbole de l'âme. C'est ça que Dieu est en train d'insinuer et de faire comprendre dans la conscience de l'humanité. Il est en train de dire, il y a en vous un principe de vie qui est ultra important. C'est la notion de l'âme. Et alors c'est vrai que c'est peut-être des conceptions qui sont acquises pour nous dans une société qui sommes habitués à la réflexion, à la conception des choses. Mais là, ils sont en train vraiment de... Dieu est en train de dire, il y a quelque chose en chacun d'entre vous qui est très précieux. C'est l'âme. L'âme qui est symbolisée par ce sang. D'ailleurs, je le rappelle, hein, peut-être qu'extérieurement, on a des couleurs différentes, mais... on saigne tous de la même couleur. Hein. Et oui, hein. Le sang du blanc, le sang du noir, qui va faire la différence? Mais c'est pareil pour l'âme. Là, il y a véritablement une valeur spirituelle qu'il est en train d'insuffler. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire, tu ne mangeras pas le sang, ni de l'animal, ni de l'autre. Parce que en fait, Dieu commence à tirer l'attention de l'humanité sur l'importance de l'âme. Sous-entendu, si tu fais attention à la valeur du sang, c'est comme si tu prenais garde à la valeur de l'âme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'humanité fasse attention? Et on va le voir après dans la continuité avec les lois, avec les sacrifices, etc. C'est que Dieu voulait concentrer la valeur du sang actuel pour que plus tard, ils comprennent la valeur du sang sacré de Jésus. Et ça, c'est le troisième sens. Il y a le sens moral, tu ne tueras pas. Apprendre à considérer notre relation aux autres. Le deuxième niveau, qui est celui spirituel, comprends que tu as une âme. Il est en toi, comme le sang est en toi. Si tu ne prends pas garde à ton sens, tu vas mourir de la même manière que si tu ne prends pas soin de ton âme, tu vas aussi mourir. Et le troisième niveau, c'est un niveau prophétique. Parce qu'effectivement, en attirant l'attention de l'humanité sur la valeur du sang, il attire notre attention sur la valeur du sang du juste qui coulera à la croix. Il fallait que l'humanité, je relis la phrase que j'ai marquée, il fallait que l'humanité se concentre sur la valeur du sang général pour comprendre la valeur du sang unique du juste qui coulera à la croix pour nos péchés. Il prépare, c'est une préparation. D'ailleurs, cette première loi est également associée à une première alliance. À partir de là que Dieu va donner aussi un premier signe, une première alliance, qui sera quoi? L'arc-en-ciel. Et c'est après ça qu'il donne, vous le lirez à la maison. Et si on paraphrase cette alliance, après avoir donné cet ordre à Noé, vous ne tuerez point et vous ne mangerez point de sang. Et après, ils donnent cette alliance, ils disent, cette alliance-là, c'est pour vous dire que jamais je ne redétruirai l'humanité par les eaux. Si on pouvait paraphraser les deux notions, Dieu pourrait dire, si vous honorez la vie de l'âme qui est en vous, je ne vous jugerai pas non plus par la condamnation. Vous comprenez ? Si vous honorez l'âme qui est en vous, alors moi non plus, je ne vous jugerai plus par une condamnation générale. Alors cette loi qui peut paraître très basique est en fait une préparation à ce qui va se passer par la suite pour réaliser l'importance de la réalité spirituelle de chaque être humain. C'est dans cette même période d'ailleurs que va se passer quelque chose d'assez étonnant et qu'on va véritablement voir la notion de gouvernement. Alors, on aurait pu déjà voir au travers de la loi une sorte de gouvernement, parce que tout gouvernement se bâtit d'abord sur une loi, sur un repère, et c'est Dieu qui donne ce repère. Mais je ne sais plus si vous vous rappelez un peu de la description que Dieu avait fait de l'humanité en Genèse chapitre 6. Il avait dit que l'humanité entière était plongée dans la méchanceté, qui ne cherchait que leurs préoccupations. Et quand on lit les chapitres 9, 10, 11, en fait, il est plus évoqué cette méchanceté. On a presque envie de dire que peut-être que par ce principe que Dieu a donné de ne plus se tuer, on a l'impression qu'effectivement la violence se serait peut-être comme atténuée. Alors on pourrait dire, tiens, ça a fonctionné. La solution que Dieu a donnée, là, ça... C'est positif, il y a de l'amélioration. Mais c'est cette même période qui va voir l'émergence d'une institution politique. Genèse chapitre 10, je vous invite également à lire ces deux versets. Genèse chapitre 10, versets 8 à 10. Alors les fils de Cham furent Cush. Non, ça c'est verset 6, pardonnez-moi. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna. Alors regardez, lui, il a gagné pas mal d'élections électorales. Hein. Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calna, au pays de Chiméar. De ce pays sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehob, Ir, Kalash et Rezen entre Ninive, etc., etc., etc. Pas mal, hein? Je sais pas s'il était de droite ou de gauche. On peut peut-être plutôt croire que, vu la description qu'il est donnée, en tant que puissant, puissant guerrier, puissant chasseur, ce serait plutôt une sorte de domination. Mais c'est là que l'on s'aperçoit, que nous découvrons là une véritable organisation de cité. Voilà un homme qui s'appelle Nimrod et qui est à la tête de plusieurs cités. C'est le premier petit empire que l'on voit se construire dans l'humanité. Qu'est-ce qu'un gouvernement ? Ben, c'est une organisation. C'est une gestion collective, coordonnée. Allons un peu plus loin, c'est un contrôle de l'homme par l'homme. C'est la gestion des choses par l'homme. Est-ce que c'est mal en soi? Ben non, elle est même nécessaire. Le problème, c'est quand Dieu n'est plus le chef. Et dans cette histoire, qui est puissant? C'est Monsieur Nimrod. Et c'est là que l'on s'aperçoit qu'il commence à y avoir un décalage qui est dangereux. C'est que dans ce gouvernement, où effectivement Dieu donne une base, on s'aperçoit qu'il y a un désir de domination, où Dieu commence à être de plus en plus exclu. Celui qui est puissant, ce n'est pas Dieu, c'est Nimrod. Et on sait que l'histoire est remplie de Nimrod. Dieu n'est plus à la direction, mais c'est l'homme qui est placé à la tête. Et là, on peut tout de suite faire un constat qui va se vérifier par la suite. Mais si nous réfléchissons, et si nous observons les choses, on s'aperçoit que les hommes préfèrent être dirigés par des institutions humaines que par Dieu et par sa parole. Ils préfèrent, les hommes préfèrent être dirigés par des organisations humaines plutôt que s'attacher à Dieu par la conscience du bien et par l'obéissance à la parole. Et cette réalité se confirmera un peu plus tard dans l'histoire. Vous pouvez prendre des notes, c'est en 1 Samuel chapitre 8 verset 6, où le peuple d'Israël d'ailleurs à l'époque n'avait pas de roi. Ils n'avaient pas de roi. Mais voilà, Samuel vit avec déplaisir que le peuple d'Israël disait « Donne-nous un roi pour nous juger ! Donne-nous un roi !» Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. » C'est Dieu qui parle. « C'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. » Et on voit là le premier gouvernement humain avec des instances et surtout avec un homme. Parce que l'homme, malgré qu'il ait la conscience du bien et du mal, malgré que cela puisse suffire pour discerner et pour faire ce que Dieu voudrait que l'homme fasse, il préfère une institution humaine, il préfère qu'un homme le dirige. Quelle folie! Et c'est là que l'on voit les premières constructions d'hommes. Et le peuple d'Israël va effectivement exprimer les choses de manière bien plus explicite. Alors oui, et là je parle pour nous, peuple de Dieu, nous louons la démocratie. Elle est bien meilleure que la dictature. Mais en tant que, rappelons-nous, en tant qu'hommes et femmes, faites à l'image de Dieu, rappelez-vous, en jardin d'Éden, combien Dieu nous a créés afin que nous soyons ouvriers avec lui. Oui, merci pour la démocratie, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions soupirer après une théocratie. S'il faut une gestion politique des choses nécessaires, que nous n'oublions jamais que notre chef, c'est notre Dieu. Que notre conscience ne doit pas être manipulée, influencée, stigmatisée, orientée par les courants politiques, mais uniquement par la volonté de Dieu. Amen. Alors oui, usons de nos droits de vote pour garder un minimum de semblant de démocratie, mais que soyons toujours conscients que notre chef, c'est Dieu. Amen. Surtout nous qui sommes... avons eu cette grâce d'être remplis de l'Esprit, d'être régénérés par lui et de connaître cette relation avec lui. Alors ce problème ne se limite pas seulement à une gestion politique, mais cette même logique, quand je rappelle cette logique, c'est la logique d'être conduit par les hommes. Cette même logique se développera sous une forme de spiritualité portée par les hommes. La spiritualité portée par les hommes s'appelle, un mot tout simple, s'appelle la religion. Eh oui, la spiritualité stimulée, développée, organisée par les hommes s'appelle une religion. Et l'homme, croyant par ses œuvres, s'approchait de Dieu. Et c'est ce que l'on voit avec la tour de Babel. Tournez encore une petite page, on arrive au chapitre 11. Et Babel est la parfaite illustration de cette construction humaine, symbole de cette religion, croyant s'approcher de Dieu. Et au verset 4, il est écrit « Et ils dirent encore, allons, motivons-nous et bâtissons-nous une ville, rapport politique, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Ah oui, faisons-nous un nom. Qu'est-ce que veut dire cette expression? On l'a déjà dit, c'est comme quand on dit au nom de Jésus, c'est pas une formule magique, mais c'est, on se réfère à sa puissance, à son autorité, à son droit. Quand les gens se disent faisons-nous un nom, c'est rendons-nous puissants, Rendons-nous célèbres. Rendons-nous suffisants. Bah, c'est le slogan de toutes les politiques et de toutes les religions.
Et même des artistes.
Parce que les religions, qu'est-ce que c'est si ce n'est que des noms qui cherchent la puissance et la domination en se servant de Dieu. Faisons-nous un nom. Ben oui. Ah oui, c'est ce qu'ils revendiquent. Nous sommes. Mais l'intérêt, en fait, c'est un intérêt de puissance, de domination, en se servant du nom de Dieu. Alors Babel n'est pas la première tour. Archéologiquement, il y a des fouilles qui sont faites, surtout en Mésopotamie, où ce genre de constructions sont bien connues. Elles portent un nom d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la première fois que vous allez entendre ce nom-là. Ça s'appelle des ziggourats. Z-I-2-G-O-U-R-A. Enfin, ça dépend comment on l'écrit. Ziggourat. Et en fait, ce sont des constructions qui étaient faites très répandues à l'époque, un peu circulaires, des grands, et puis voilà, ça construit, et ça montait en hauteur comme ça. Et comprenez bien que derrière ces constructions, il y avait tout un culte qui était rendu aux divinités païennes, des sacrifices, etc. Et donc, Babel, n'étant pas la première de ces constructions, mais elle est véritablement représentative de toute l'arrogance humaine. Allons, bâtissons, croyant ainsi que ces hommes, dans l'illusion de l'unité, arriveraient à seraient suffisants pour atteindre ce ciel par leurs efforts. C'est véritablement le symbole le plus flagrant de la construction de la religion. Allons, bâtissons ensemble. Vous connaissez le slogan, hein, l'union fait la force. Mais c'est complètement cette logique-là. Bâtissons ensemble. On va construire quelque chose vers Dieu. On va toucher le ciel. Ça nous rappelle l'illusion du jardin d'Éden. Vous serez comme Dieu. Et oui, par nos efforts, par notre unité, entre nous, on va être fort et on va toucher le ciel. Ce premier mensonge qui était déjà dit en Éden n'a pas fini, il continue. Soyons comme Dieu, avec notre tour qui touche le ciel. Plus besoin de lui, faisons un nom. Nous allons représenter ce qui doit être divin, ce qui est sacré. Unissons tous nos dieux, nous représentons cela. Eh oui, la racine du péché est toujours là, celle de l'indépendance. Faisons-nous un nom. Plus besoin de lui. Nous allons construire quelque chose qui touche le ciel. Nous allons bâtir. Nous allons faire. Nous savons. Parce que nous, ensemble, on est plus forts. Vaut mieux être tout seul avec Dieu qu'avec une tribu de païens. Et Dieu mettra fin à ce projet en mettant la confusion entre les hommes. Car le désir d'indépendance est toujours lié au péché. Toujours lié au péché. Et c'est vrai que Dieu mettra fin à cette construction, mais chacun va repartir avec son péché dans son cœur, avec ses mêmes rêves, avec cette même illusion. Les gouvernements humains, qu'ils soient politiques, religieux, artistiques, continuent de se multiplier des milliers d'années après. Mais aucun de ces gouvernements, et c'est ça qu'on doit retenir, aucun de ces gouvernements, aucune de ces motivations à vouloir construire quelque chose ensemble, là, que ce soit de l'ordre politique, religieux, aucun de ces gouvernements n'amène l'homme à une relation à Dieu. Aucun. Et nous, on saura que c'est seulement par la foi et par une foi simple que ces choses se concrétisent. Donc, pire que ça, non seulement ces gouvernements politiques, religieux, n'amènent pas l'homme à Dieu, mais le pire, c'est que ces gouvernements se substituent à Dieu. Et c'est ça encore le plus dangereux. Et pour la petite anecdote, le Parlement européen a été construit sur la base de la représentation de la tour de Babel. Le Parlement européen, là où toutes les décisions sont prises pour toute l'Europe, quelle bonne inspiration leur a pris de vouloir construire ces bâtiments en rond. Et ils le disent, hein, les architectes disent que ça a été façonné, construit sur la base de la tour de Babel. Alors ouvrons les yeux. sur ce système à la Nimrod. Nimrod, il est toujours vivant, hein. Il s'appelle d'autres noms en fonction des époques de la société. Mais c'est Nimrod qu'ils veulent dominer, qu'ils veulent diriger, qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Soyons les yeux ouverts et le cœur grand ouvert aussi, pour que notre Dieu soit véritablement le seul qui nous dirige. Amen.